Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1, il est 4h58, nous sommes le mardi 5 février. Et si vous peinez à entrouvrir vos délicates petites paupières, si vous n'avez pas du tout envie de vous extraire du lit sachant qu'il fait moins 2 dehors, sachez que pour nous aussi c'est dur. Quand je dis nous, je parle évidemment d'Eva Rock et Céline Dacosta, mes deux collègues et colocataires qui ce matin ont eu encore plus de mal que moi à se réveiller. Je ne savais plus comment les arracher au bras de Morphée, car on dit souvent qu'Eva n'a pas de mec. C'est faux, elle a Morphée. L'heure tournée, il fallait pourtant préparer l'émission, c'était un cauchemar. Un peu comme si Mireille Mathieu reprenait comme d'habitude, mais en allemand. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas. Comme d'habitude. Sur Eva, je remonte le drap. Elle s'écrie.
Ah, le cochon !
Comme d'habitude. Céline, elle, rêve de Jérôme, presque malgré elle.
C'est bon, de toute façon, dès que tu mets de la c'est bon, hein.
Oui, voilà, les filles, on se réveille. Vous écoutez. Debout les copains, le 5-7 préféré des plus grands. Par exemple, Cristiano Ronaldo, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire. On l'embrasse, Cristiano, qui chaque matin, sur le chemin de l'entraînement, nous écoute en podcast.
Comment ça va? C'est mes compétitions favorites.
J'adore Debout les copains, c'est vraiment mon émission favorite. Les conseils télé des Baroques sont vraiment formidables, même si je n'ai pas arrêté. Et voilà, justement, quelle question avez-vous choisi de poser nos auditeurs ce matin?
Il va la détester, cette question, Ronaldo.
Ah bon?
C'est la journée mondiale de... Vous savez, cette petite pâte à tartiner qu'il ne faut absolument pas manger sous risque de... calories et autres huiles de palme,
je
voyez.
Ne connais pas.
Mais alors justement, vous, quel est votre kiff alimentaire un peu honteux? Vous voyez ce truc qu'on ne doit pas manger, mais
j'en
qu'on
connais
mange quand même.
Du beurre salé en dessous.
Oui. Non, mais là, on a eu pire que ça avec nos auditeurs. Vous allez voir.
Vous avez déjà des réponses?
Oui, on a déjà des réponses.
Mais vous avez lancé la question hier. Comment ça marche?
Non, tout à l'heure. Mais ils sont déjà réveillés, les gens.
Incroyable. Les gens sont vraiment formidables, comme dit Jacques Martin.
Ouais.
Vous, Céline, quel temps avez-vous?
Oui, alors okay,
vous avez vous concocté pour aujourd'hui. Oui, j'ai essayé de faire une phrase qui était beaucoup trop compliquée pour 4h59.
C'était trop ambitieux, cette heure-ci. De la grisaille hein, sur la plupart des régions du pays.
Pas léger
mais,
redoux.
Non. Alors si, le redoux, ça c'est la bonne nouvelle. Hein, les températures remontent et puis on a encore du soleil sur l'est. Nous, on va rester sous la grisaille.
Ah,
voilà.
D'accord. Bon, tant pis pour nous.
C'est pas grave.
Mesdames,
c'est bien.
Vous voilà en tout cas enfin réveillés. Nous allons pouvoir passer aux choses sérieuses.
Ah, oh, c'est bon ça.
Non, je parlais simplement de l'émission, Eva. De vous les copains, c'est parti.
Nous sommes le mardi 5 février. Merci d'avoir choisi Europe 1. Et très bon réveil à tous. Il est 5h. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Le premier journal de ce mardi 5 février, c'est avec vous, Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Les titres.
Incendie meurtrier en cours dans le 16e arrondissement de Paris, bilan très lourd. 7 morts, 28 blessés. Le feu a pris dans un immeuble de 8 étages entièrement évacué. L'origine reste indéterminée. Nous serons sur place dès le début du journal. 2 à 300 gilets jaunes et manifestants aux couleurs de la CGT ont bloqué cette nuit l'une des entrées du marché de Rungis, près de Paris. Levé de rideau de l'appel à la grève générale aujourd'hui. Et puis la ristourne promise aux usagers réguliers des autoroutes après les augmentations du 1er février. Vous l'entendrez, ces baisses de tarifs ne concernent pas tout le monde. 200 pompiers sont actuellement rue Erlanger dans le 16e arrondissement de Paris. Un incendie s'est déclenché au beau milieu de la nuit dans un immeuble de 8 étages. Bilan très lourd, il vient de s'alourdir. 7 morts et une vingtaine de blessés. Aude Vernuccio, vous êtes sur place pour Europe 1.
Oui, Jérôme, à l'heure actuelle, le feu n'est toujours pas maîtrisé. L'incendie s'est déclaré aux alentours d'une heure du matin dans cet immeuble de 8 étages, dans le quartier très huppé du 16e arrondissement. Une scène d'une incroyable violence, racontent les pompiers, qui ont vu tout l'immeuble s'embraser en quelques minutes. Certains habitants ont dû se réfugier sur le toit et aux fenêtres pour échapper aux flammes. Le bilan vient de s'alourdir, vous l'avez dit, 7 morts, 27 blessés, dont un en urgence absolue et 3 soldats du feu. La plupart ont été hospitalisés, mais le bilan peut encore évoluer, d'après le porte-parole des pompiers. Des évacuations sont toujours en cours. On ne connaît pas encore les causes de l'incendie. Une enquête judiciaire est ouverte.
Aude Vernuccio, et j'ajoute que plusieurs immeubles alentours ont également été évacués. Je vous rappelle donc le bilan très lourd de cet incendie rue Erlanger dans le 16e arrondissement de Paris. 7 morts, un blessé grave et une vingtaine de blessés légers, dont 3 soldats du feu.
Europe 1, il est 5h02.
Des gilets jaunes et des militants de la CGT ont bloqué cette nuit l'une des entrées du marché de Rungis en région parisienne. Ils souhaitent ainsi lancer la grève générale prévue pour aujourd'hui. Agents de la fonction publique, RATP, SNCF, La Poste, mais aussi les personnels de l'éducation nationale sont appelés à débrayer. Appel à manifester dans toute la France. À Paris, un cortège partira à 14h de la place de l'Hôtel de Ville, direction la Concorde. 6 heures de questions-réponses avec 300 personnes personnes, maires, représentants d'associations. C'était la cinquième rencontre pour Emmanuel Macron qui, pour la première fois, emmenait le grand débat national en banlieue à Évry-Courcouronnes dans l'Essonne. Principale annonce, un plan pour les petites associations, des aides pour les structures qui feraient travailler des résidents des quartiers défavorisés. Et puis dans le même temps, c'est une information Europe 1, Gérald Darmanin, ministre du Budget, a lui aussi pris part à un débat à Mandres-les-Roses dans le Val-de-Marne.
La désillusion, Jérôme, pour certains utilisateurs réguliers des autoroutes.
Les tarifs des péages ont augmenté le 1er février, augmentation annuelle, on vous en a parlé. Sous la pression du gouvernement, les sociétés d'autoroutes avaient consenti à des ristournes pour les usagers réguliers via un nouvel abonnement, sauf que ces réductions ne s'appliquent pas partout, Jean-Jacques Héry.
Selon nos confrères du Parisien, il y aurait à ce rabais plusieurs exceptions habilement défendues et préservées par les sociétés d'autoroutes. La première d'entre elles concernerait certaines infrastructures spécifiques à la tarification plus élevée, exemple type la traversée du tunnel du Mont-Blanc ou du viaduc de Millau. Conséquence, si vous roulez du Havre jusqu'à Rouen en passant par le pont de Tancarville, explique le Parisien, eh bien vous pouvez oublier la réduction de 30%, vous paierez plein pot. La deuxième chose, c'est que visiblement, la règle ne va pas s'appliquer à tout le monde. Sur les 20 sociétés d'autoroutes qui exploitent plus de 9000 km, 12 sont exclues de la mesure, sans que le journal ne donne de détails. Quant à la troisième exception, pointée du doigt par le Parisien, elle apparaît presque grossière. Si votre trajet emprunte un tronçon mixte, péage de départ sur la Sanef, péage d'arrivée sur les autoroutes Paris-Rhin-Rhône par exemple, eh bien là aussi vous paierez plein tarif. La réduction ne devrait s'appliquer que si votre route habituelle n'emprunte qu'un seul réseau. Pour le moment, difficile d'estimer ce que cela permettra aux sociétés d'autoroutes d'économiser. Ce qui est certain, c'est que beaucoup d'automobilistes risquent d'être déçus.
Jean-Jacques Héry, la loi anti-casseurs doit être adoptée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Plusieurs points de ce texte divisent les rangs de la majorité, comme par exemple le pouvoir donné au préfet d'interdire les manifestations. Une trentaine de députés de la majorité ne devraient pas voter ce texte. Au Venezuela, le soutien international à l'opposant Juan Guaido grandit. Plusieurs pays européens, dont la France, l'ont reconnu hier président par intérim. Comme cette nuit, une dizaine de pays latino-américains. Selon une ONG, près de 1000 personnes ont été arrêtées ces derniers jours lors des mouvements de protestation contre le président élu Nicolas Maduro. 700 seraient toujours emprisonnés. Et puis vous vous souvenez peut-être de cette œuvre de l'artiste britannique Banksy qui s'était partiellement autodétruite en octobre chez Sotheby's juste après son acquisition. Cette œuvre baptisée « L'amour est dans la poubelle » est exposée pour la première fois à partir d'aujourd'hui gratuitement à Baden-Baden en Allemagne jusqu'au 3 mars. Le directeur du musée assure que la broyeuse cachée par Banksy dans le cadre du tableau a été désactivée.
Et Jérôme, votre maman a eu beau vous le répéter.
Courir derrière un ballon pour gagner du terrain, c'est un jeu de crétin.
Vous ne l'avez pas écouté, vous êtes fan de foot. Moi je ne sais pas, je ne sais plus d'où viennent tous ces sons. On passe au journal des sports. Du JDS, Jérôme, la peur du vide.
Vide, comme le sera ce soir le stade Vélodrome, celui des footballeurs marseillais.
On avait besoin de ça, tiens.
Huit clos pour la réception de Bordeaux, match en retard de la 18e journée de Ligue 1. Sanction de la commission de discipline après des incidents il y a 10 jours face à Lille. Alors, c'est un contexte toujours particulier, hein, jouer sans spectateurs dans les tribunes, mais au moins, il n'y aura pas la pression d'un public hostile avec ses joueurs, hein, ces derniers temps. L'OM englué dans une mauvaise série, une seule victoire sur les 12 derniers matchs et plus aucun succès à domicile depuis le 11 novembre. L'entraîneur Rudy Garcia pense avoir bien retenu les leçons des dernières déconvenues.
On doit s'améliorer dans le jeu, ça c'est sûr. On doit être beaucoup plus continu. Si on n'est pas plus solide, si on fait pas moins d'erreurs défensives, parce qu'on a été aussi plombé par ça le dernier match et ça fait un petit moment qu'on prend des buts. Bah, si on n'améliore pas ça, ça va être difficile d'être meilleur dans le jeu et d'obtenir des meilleurs résultats.
Des propos recueillis par Yann Théroux, Marseille-Bordeaux, coup d'envoi 19h. Également aujourd'hui, le début des huitièmes de finale de la Coupe de France à 18h30. Metz-Orléans, Nantes-Toulouse, ainsi que les Dijonais en déplacement chez les nordistes de Croix, 4e division. Et puis à 21h, Bastia, désormais en 5e division, et c'est le plus petit niveau encore représenté, jouera face à Caen.
Qu'est-ce qu'ils foutent en 5e division, Bastia?
On en parle en détail à 5h40.
Ah, pardon,
il y a eu des pots de bilan en 2017.
Ah oui, c'est vrai, je me souviens de cette histoire. Vous nous raconterez tout à l'heure. La Ligue 2 et le bon coup des Lensois.
Large victoire 3-0 sur Béziers en clôture de la 23e journée. Les Lensois 5e ce matin à seulement 2 points du podium. Également hier, Gazelec Ajaccio Valenciennes 0-0. Le tennis, je sais que vous adorez ça, Mathieu,
oui,
avec
tennis,
le début hier.
Comment vont nos Français?
De l'Open de Montpellier. Facile qualification pour le deuxième tour de Jérémy Chardy qui a très facilement battu l'Espagnol Menéndez, classé au
joli.
De la 100e place mondiale.
Oh, mais quand même, c'est un Espagnol.
C'est passé, oui, c'est vrai. C'est passé aussi, mais dans la douleur pour Joe Wilfried Tsonga en 3 manches face à son jeune compatriote Hugo Humbert.
On termine, Jérôme, avec le chiffre du jour.
27, comme votre âge, presque, non, comme l'âge de Neymar.
Je vous en prie.
Comme l'âge de Neymar, les stars du PSG et beaucoup d'autres vedettes étaient réunies hier au pavillon Gabriel à Paris. C'était l'anniversaire de Neymar. Alors, il fallait venir tout de rouge vêtu. C'était le cas du Brésilien. Jusqu'aux béquilles, il s'est quand même pointé avec des béquilles rouges parce qu'il est blessé, mais c'est, rouge c'était le dress code, donc les béquilles aussi. De nombreux joueurs du PSG étaient là, ainsi que notamment Cathy Guetta, Bob Sinclair ou encore la star brésilienne du surf, Gabriel Medina.
Du beau linge, comme on dit. Merci, c'était le journal des sports.
Pas invité, en fait.
Non, effectivement, on n'a pas reçu
J'ai trouvé un chapeau rouge qui traîne dans la rédac. Je ne sais pas qui y est allé.
Quelqu'un
y est allé.
C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix, ou devrais-je dire Jérôme The Cross. Puisque la nouvelle est tombée hier à l'occasion du Super Bowl, notre GG est parfaitement bilingue. Démonstration, my champion. Jérôme, pourquoi ce Super Bowl était-il si décevant?
Parce qu'il n'y a eu qu'un seul touchdown.
Ah, un seul touchdown. Ah bah en effet, c'est disappointing.
Europe 1. Il est 5h08, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue avec un point météo suivi du pressing, notre revue de presse en mode zapping. Et puis, quand votre vie vous lasse, quand vous avez le sentiment d'avoir fait le tour de votre métier, pourquoi ne pas en changer? Certains ont pris leur courage à deux mains et l'ont fait. Chaque matin, Europe 1 leur donne la parole dans Fallait oser. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre de Victoire. Elle bossait dans la pub. Elle est devenue metteuse en scène.
Mathieu Noël.
Debout les copains, continue sur Europe 1, l'heure de faire un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta. Encore du soleil pour l'est du pays.
Oui, il brillera largement de l'Alsace, Bourgogne jusqu'au pourtour méditerranéen et en Corse. Ailleurs, c'est la grisaille qui va dominer avec des averses de la Bretagne à l'Aquitaine. Encore un petit peu de neige ce matin sur le relief pyrénéen. Le soleil reviendra sur les sommets dans l'après-midi et puis les températures grimpent un peu. On est dans les normales de saison avec une moyenne cet après-midi de 6 à 14 degrés du nord au sud. Il en fera 8 à Paris contre 4 hier.
Ah oui, ça double.
Ça double.
Si on calcule et signe, si on est bon en arithmétique.
Tout à fait.
Comme c'est le cas d'Eva Rock.
Oui, sûrement, oui. Vous savez, c'est la journée mondiale de cette petite pâte à tartiner.
Ah, parce que vous n'allez jamais dire le nom, moi j'en ai rien à foutre, hein. Nutella.
Voilà, oui. Nutella. Voilà. Ben justement, quel est votre kiff alimentaire?
On va pas tourner autour du pot, si j'ose dire.
Voilà, oh, c'est très bon ça.
Oui, c'est pas mal. J'aurais espéré plus de réactions d'ailleurs de votre part.
Vous savez, ce petit kiff alimentaire un peu honteux, ce truc qu'on ne devrait pas manger mais qu'on mange quand même. Eh bien, nos auditeurs sur Twitter avec le hashtag Europe 1 nous répondent. Accrochez-vous parce que l'estomac à 5h du matin. Noder nous dit. Un petit pain au chocolat avec le café, surtout pas chocolatine. Donc ça va, on est d'accord. Mmh. En revanche, Kiko nous dit pain grillé frotté à l'ail, arrosé d'huile d'olive avec le café du matin.
Ah, ça c'est violent.
Ouais. Et alors il y a pire, tant Sabrina, croissant au beurre, maroilles trempé dans le café du matin. Ah,
ouais. Croissant maroilles.
Voilà, donc je vais aller vomir et puis
encore,
je reviens.
Mais...
croissant au beurre.
Ah non, parce que vous avez du mal avec le fromage. Mais moi, vous savez ce que j'ai fait ce week-end
maroilles,
de coquin?
Si
j'ai fait une raclette samedi soir.
Mais
j'avais pas
sait.
Très très faim dans cette raclette, donc je mangeais normalement. Par contre, le lendemain matin, il restait plein de fromage à raclette. Le lendemain matin, je me suis fait au petit-déj, la raclette.
Okay.
Raclette, piment d'Espelette.
Je vais aller vomir, je reviens.
Et oui, c'était ma confession. Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël. Vous écoutez Debout les copains, 2 heures pour vous informer, vous amuser et tous les jours à 5h10, vous inspirer. Changer de vie, ça ne s'improvise pas, mais ça se tente. La preuve ce matin avec Victoire Berger-Perrin, qui était directrice de clientèle dans le web. À 29 ans, elle décide de prendre un congé sans solde pour prendre un peu de recul. Elle est donc partie 5 mois à l'aventure en Argentine. Et c'est là-bas que son ancienne passion pour le théâtre l'a rattrapée.
Fallait oser.
J'avais toujours aimé le théâtre. Hein. Petite, je passais ma vie à faire des spectacles, à écrire des pièces. Donc, je suis partie faire un stage à Buenos Aires dans le théâtre Timbre Cuatro. Et là, ça a été le déclic. C'est sur le terrain que je me suis formée et que j'ai appris. Après Buenos Aires, je suis rentrée à Paris après seulement 4 mois, mais j'avais déjà l'esprit complètement changé. L'idée que on pouvait faire ce qu'on voulait faire, que c'était possible, une nouvelle vie. Et ça, c'est l'esprit argentin, hein. C'est fabuleux.
Après cette expérience, Victoire est rentrée à Paris, s'est formée en tant qu'assistante à la mise en scène dans plusieurs théâtres.
Et oui, puis il y a 2 ans, elle a franchi une autre étape importante. Elle a acheté les droits et adapté elle-même le livre, l'excellent livre d'Olivier Bourdeau en attendant Bojangles. Et elle est donc devenue metteur en scène et ce métier de chef d'orchestre au théâtre la passionne.
J'adore le fait de coordonner différentes personnes pour arriver à un objectif commun. J'adore, d'une manière générale, la scène et le spectacle vivant, c'est-à-dire le fait de vivre dans le présent et de savoir que rien ne va jamais se passer de la même façon chaque jour. Et ça, c'est magique, en fait. Ma vie n'est plus la même. Je suis heureuse, je suis contente de ce que je fais, je suis à ma place. Même si c'est peut-être pas toujours facile, hein, je peux avoir des doutes, mais il y a quand même quelque chose au fond de moi qui me dit que je suis à ma place.
Ça fait maintenant 7 ans que Victoire s'est reconvertie. Aujourd'hui, elle en vit et ça marche plutôt bien car la pièce de théâtre En attendant Bojangles est reprise en ce moment à Paris.
Oui, c'est à partir du 6 février au Théâtre de la Renaissance. Franchement, je vous incite à aller voir parce que c'est une formidable adaptation. Et puis si vous aussi, vous avez changé de métier, vous pouvez nous écrire sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Europe 1.
Il est 5h13, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui est au journalisme ce que le sucré salé est à la gastronomie. C'est bon, mais attention au dosage. À suivre justement, de quoi vous ouvrir l'appétit culturel, de quoi étancher votre soif de connaissance, ça vous dit Céline?
Bah moi j'aimerais bien parce que je dois remplir ma gourde.
Oui, bref. Visiter les maisons des grands écrivains, ça vous dit? Et en savoir plus sur le fameux pass culture, notamment ce que vous aurez vraiment le droit d'acheter avec, ça vous dit aussi? Toutes les réponses de nos experts arrivent dans Mardi les bons tuyaux. Sans oublier votre point santé, ce matin le docteur Ichou va en déculpabiliser plus d'un, gros dormeur, petit dormeur, et si plus que la volonté, le besoin de sommeil était question de génétique. On en parle, mais d'abord un peu de musique, et pour la bonne cause en plus. On trace les enfoirés sur Europe.
Mille avant nous ont voulu laisser leurs traces, ils s'en sont vus déçus. De belles âmes que le temps efface, Dieu j'en ai connu.
On veut avancer seul, mais on ne va jamais loin. Suffirait qu'on le veuille pour aimer nos voisins.
C'est pas la mer à boire, pas l'océan non plus. Pour dessiner l'histoire, il faut nos mains tenues.
Chanter dans les campagnes et danser dans les rues. Demain, demain, on gagne. Demain, nos mains tenues. On trace.
Et mille ont échoué. Pourquoi penser qu'on peut mener sa barque sans se faire aider? On veut avancer seul, mais on va jamais loin. Aux amis qui en veulent, impossible n'est rien.
C'est pas la mer à boire, pas l'océan non plus. Pour dessiner l'histoire, il faut nos mains tenues.
Chanter dans les campagnes et danser dans les rues. Demain, demain, on gagne. Demain, nos mains tenues. On trace. Trace. On trace. Trace. Ensemble, ensemble, tout simplement. 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 Ensemble, ensemble, tout simplement.
On trace. Les enfoirés sur Europe 1, j'aimerais bien, Eva, que vous soyez plus concentrée sur les disques que nous diffusons.
Je suis très concentrée, ouais, Mathieu.
S'il vous plaît, je vous en veux le plus être
on
dans l'écoute.
Trace.
Voilà. Ah, exactement. Ah, vous avez écouté un petit peu, c'est bien.
Il est 5h16. Voici l'essentiel de l'actualité avec vous, Mathieu Noël.
Incendie meurtrier en cours dans le 16e arrondissement de Paris, bilan très lourd. 7 morts, 28 blessés. Le feu s'est déclenché au beau milieu de la nuit dans un immeuble de 8 étages entièrement évacué. L'origine reste indéterminée. 200 pompiers sont sur place. 2 à 300 gilets jaunes et des militants de la CGT ont bloqué cette nuit l'une des entrées du marché de Rungis en région parisienne. Ils souhaitent ainsi lancer la grève générale prévue aujourd'hui. Appel à manifester dans toute la France. À Paris, un cortège partira à 14h de la place de l'Hôtel de Ville, direction la Concorde. Enfin, la loi anti-casseurs doit être adoptée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Plusieurs points de ce texte divisent les rangs de la majorité, comme par exemple le pouvoir donné au préfet d'interdire les manifestations. Une trentaine de députés de la majorité ne devraient pas voter ce texte.
Europe 1.
Voici pour les titres de ce 5 février 2019, mais comme je vous sens nostalgique de notre spécial jeu de mots foireux de vendredi en l'honneur de l'anniversaire de Jean Roucas, j'ai demandé ce matin spécialement à Guy Lux, en personne, de lancer notre séquence des pronostics hippiques.
Eh oui, les choux, le tiercé, moi, c'est mon dada. Prenez la vie du bon quinté.
Joli Guy. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Mathieu, il y aura des courses cet après-midi à Cagnes-sur-Mer et mon pari gagnant sera le 118 Blooma des Riprés. jugé digne de disputer le 20 janvier à Vincennes le prix de Cornulier, le championnat du monde au trot monté, elle redescend ici de plusieurs catégories. Avec plus de 418 000 euros de gains, c'est la jument la plus riche de ce quintet, mais certainement pas la plus docile. C'est elle qui décide. Bien lunée, elle trouve ici une occasion en or de renouer avec la victoire qu'elle n'a pas connue depuis plus d'un an. Alors notez bien, pour cet après-midi à Cagnes-sur-Mer, réunion 1, dans la première course, le numéro 18, Blooma des Riprés.
Merci Thierry Léger.
Il est 5h18.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains et voici venue cette séquence qui est rapidement devenue plus qu'une séquence, une véritable tranche de vie. Ce moment joyeux et convivial où tous les membres de la coloc d'LC se rejoignent autour de la table du petit déjeuner, ce matin, Eva, qui dormait encore, a soudain senti une odeur caresser ses narines. Elle s'est réveillée en sursaut.
Oh là, ça sent les croissants.
Et non, c'est le nouveau slip de Jérôme Lacroix. Le premier slip croissant, intégralement comestible, composé à 100% de pâte feuilletée au beurre de baratte normand. Céline a immédiatement adhéré au concept.
Ah, génial ! Bravo ! Bravo !
Un doute subsistait néanmoins. Le caractère bien beurré de ce nouveau slip allait-il nuire aux performances de son fougueux GG ? Jérôme lui-même a eu un doute qui a heureusement été rapidement levé.
Je rappuie dessus, c'est bon ? Ah oui, c'est bon, ça fonctionne.
Oh, il y a la bonne heure ! Justement, il est 5h19, l'heure de passer au pressing. Notre revue de presse en mode zapping.
Vous êtes complètement tarés.
Il ne faut pas visualiser, sinon ça peut nous amener très loin. C'est pas le problème. Mais pourquoi pas, Lady Gaga, elle avait bien une robe en viande.
Alors, bon petit déjeuner.
Ce matin, à une de vos journaux, La Croix titre. Syndicats et gilets jaunes, la défiance, alors qu'est prévue aujourd'hui une journée de mobilisation, on vient de le dire, à l'appel des syndicats. Et Sud-Ouest se demande si les syndicats ont encore du poids. Question importante. Quant à l'Humanité, le quotidien propose 4 bonnes raisons de se mettre en grève. Mais vous, méfiez fait coquinou, visiblement vous n'êtes pas en grève. Qu'avez-vous encore dégoté de cocasse dans la presse du jour, Eva Rock?
Alors pas si cocasse que ça, mais dans la famille des nouveaux jeunes chefs d'État élus en dehors des partis politiques classiques, eh bien je vous présente Naïb Boukele. Il a 37 ans, celui qui se présente comme le président anti-système et qui vient d'être élu au premier tour à la tête du Salvador. Petit pays, vous voyez, qui partage les frontières avec le Honduras et le Guatemala.
Il faudrait une musique pour le Salvador, s'il vous plaît, en régie. Ils vont réagir.
Alors, moins grand que la Bretagne, le Salvador, mais très peuplé, plus de 6 millions d'habitants, sans compter les 2,5 millions d'expatriés. Libération trace donc le portrait de ce garçon ce matin, qui entre 2015 et 2018 fut déjà le maire de la capitale, le San Salvador, et pour la première fois depuis les accords de paix en 1992, qui ont mis fin à une sanglante guerre civile, il y avait eu 75 000 morts en 12 ans, le président n'est pas issu ni du parti d'extrême droite, ni du parti FMLN, c'était l'ex-guérilla marxiste. Alors dimanche, au moment de sa victoire, Naïb Boukele a déclaré « La page de l'après-guerre est tournée, nous allons désormais regarder vers l'avenir. » C'est toujours mieux. Hein. Vous voulez mettre votre petite musique du Guatemala?
Mais ça, je pense que pour nos auditeurs, oui. Par respect pour nos auditeurs, je pense que quand on évoque un pays lointain, on met la musique
pour
phare
illustrer,
de ce pour illustrer, pour emmener nos auditeurs voyager. Au Salvador.
Bien sûr.
Et le Salvador, c'est quand même avant tout...
El Condor Plaza.
Cette flûte de pan qui nous sert pour tout le secteur américain et qui est très pratique parce qu'en plus, elle est libre de droit.
Oui.
Ce qui fait économie pour la radio et dépaysement pour l'auditeur.
C'est vrai. Mais vous
constatez...
Que je me suis améliorée en flûte de pan quand même.
Ah oui, vous avez progressé, c'est pas mal.
Bon,
continuez.
Je continue.
On y est maintenant au Salvador.
Alors, Naïb Boukele, fils d'un commerçant originaire de Palestine, figure respectée de la puissante communauté arabe du pays, et il a mené campagne en jurant de combattre la corruption. Bon. Sauf qu'il s'est présenté sous l'étiquette de la Grande Alliance pour l'Unité Nationale, qui est un mouvement de droite dont le fondateur est en prison. Il purge une peine de 10 ans de réclusion pour avoir détourné 300 millions de dollars de fonds publics, raconte François-Xavier Gomez, le journaliste de Libé. Alors, autre fait peu glorieux dans sa biographie, à ce jeune homme, des violences machistes. Il a agressé une conseillère municipale de sa propre majorité en l'insultant et en lui lançant une pomme au visage. Naïb Boukele a réuni sous son nom des hommes de gauche et des hommes de droite et peut se prévaloir quand même d'un bilan positif à la tête de la capitale. Travaux d'urbanisme et sécurité sont ses deux grandes réussites, mais les défis qui l'attendent sont bien plus importants. Il va devoir trouver une solution pour mettre fin notamment à la violence parce que le Salvador est confronté à la puissance des maras. Ce sont les gangs qui contrôlent le trafic de drogue. Justice et système pénitentiaire sont débordés. Alors écoutez bien, le taux d'occupation carcérale atteint 330%.
Ah ouais.
Ces violences et le manque de perspectives économiques ont d'ailleurs poussé à l'émigration. Les Salvadoriens représentent la deuxième nationalité dans les caravanes de migrants d'Amérique centrale qui tentent de passer aux États-Unis. Problème, c'est qu'en 2018, Trump a mis fin au statut de protection temporaire qui accordait un permis de résidence en fait aux migrants de pays soit victimes de catastrophes naturelles ou d'instabilité politique. Les Salvadoriens ont donc entre 12 et 18 mois pour rentrer chez eux. Un excellent papier à lire dans Libération ce matin.
Merci beaucoup Eva Rock, c'était absolument passionnant hein, ce
Non,
ce
vous
point,
étiez concentré sur le fait de mettre une musique toute dégueulasse pour ma chronique.
Mais pas du tout, mais on plaisante évidemment qu'El Condor passa, on est quand même des mélomanes autour de cette table et on sait très bien que le Salvador c'est évidemment... Là on y est.
Ah ouais. Je vais vous envoyer au Salvador, vous allez voir, vous allez moins rigoler.
Céline Dacosta.
Moi faire le malin. Du Salvador on passe au Grand Est.
Oh, ben on va trouver. Allez-y, démarrez.
Trouvez une petite musique pour illustrer Vic-sur-Celle, un village de Moselle. C'est là qu'on part. Je vous parle de Christelle et de sa belle-sœur Cindy, qui, il y a 5 mois, ont eu la bonne idée de créer une crèche un petit peu particulière, parce que c'est une crèche pour chiens, figurez-vous.
Une crèche pour chiens,
oui. Et c'est un véritable carton.
On en a besoin.
Oui, oui. Christelle était assistante dans un cabinet vétérinaire à longueur de journée. Elle entendait les gens qui racontaient comment leur chien était revenu traumatisé d'un séjour en pension. La seule solution, qu'on n'a personne pour garder son animal. Elle démissionne alors de son poste pour lancer cette crèche centrée sur le bien-être animal, un concept importé du Canada. Elle cible les villes évidemment, mais ces dernières sont un petit peu réticentes. Elles imaginent un endroit à l'image d'un chenil avec des chiens qui aboient tout le temps. Du coup, Crèche and Dog, puisque c'est le nom de sa crèche, s'installe dans ce petit village de Moselle, Vic-sur-Celle, entre Metz, Annecy et Strasbourg. Nancy et Strasbourg. Annecy, c'est pas vraiment en Moselle. Au programme, jeux, détente, balade, mais aussi peinture et musicothérapie. Alors ça, je serais curieuse de voir ça. Un principe unique en France, on n'en doute pas. Et les clients sont nombreux à vouloir leur confier leur chien. Mais celui-ci doit d'abord passer un test de sociabilité. Normal. Hein,
et en quoi consiste le test de sociabilité pour un chien?
Ça n'est pas écrit, mais j'imagine qu'il faut être gentil avec les autres chiens.
Tâchons de l'imaginer.
Heureusement qu'il ne fait pas le test de sociabilité avec vous. Hein, vous imaginez.
C'est noté, là. Mais tout ça, je l'oublie pas. Hein. Vous savez qu'il y a les entretiens d'évaluation hein, bientôt.
Oh, c'est pas ouais.
Vous allez passer dans mon bureau.
Ouais. Les auditeurs ne le voient pas, mais là, il est dans une cage hein, pour pas qu'il s'attaque à nous.
Mais qu'est-ce que c'est que cette rébellion ce matin, là, dis donc, les enfants. Poursuivez.
Alors, on en parle aujourd'hui dans Aujourd'hui en France, et j'ai même lu dans le Républicain Lorrain que la demande est telle qu'elles se sont même rapprochées d'une entreprise de taxi animalier pour faire un partenariat, un transport sur le principe du ramassage scolaire pour ceux qui voudraient mettre leur chien à la crèche. Oh ouais, c'est fou. 1 à 2 jours par semaine et qui ne pourraient pas l'emmener. Alors, 5 mois seulement que la société existe, elles ont déposé la marque et le concept, elles ont bien fait, car elles ont déjà près de 90 demandes de franchise venues de toute la France.
Mais ce qui est bizarre...
Mais aussi Belgique, Suisse, Luxembourg. Oui, dites-moi.
Mais ce qui est bizarre, c'est que les hôtels pour chiens et chats, ça existe?
Ah, sur la Côte d'Azur, à Droite Mille la nuit, quoi.
Mais non, c'est pas...
Je pense qu'elles proposent plus d'activités,
c'est pas si cher que ça. C'est cher, mais c'est des hôtels où ils sont bien, ils sont dans des petites... Oui, mais là, on vous envoie des photos de votre chat, je l'ai fait. Donc bon,
mais ils ont...
On vous envoie des petites photos de votre chat pour voir s'il est bien.
Voilà. À la crèche, ils ont musicothérapie.
Mon chat, il avait de la musicothérapie, il avait des trucs, il avait des projections de cinéma. Bon bref,
c'est pas fini,
il faut se dépêcher parce qu'on a plus de 50 secondes.
C'est de votre faute. Elles ont prévu d'ouvrir 4 franchises cette année. Elles ne s'attendaient pas à créer des emplois si vite. En tout cas, ça paraît réussi. Crèche and Dog, la crèche pour chien, c'est-à-dire aujourd'hui en France.
Magnifique, Céline Dacosta. Vous avez du temps en fait. Là.
Oui,
L'entraînateur m'a accordé plus de temps finalement. Allez-y.
Je vous parle comme le fait le Figaro ce matin, un phénomène en pleine expansion, alors phénomène illégal, je le précise tout de suite, et qui fait froid dans le dos des chaînes de télé qui dépensent des millions pour acheter du sport et surtout du foot. C'est le piratage. Le Figaro m'apprend ce matin ce chiffre. L'année dernière, en moyenne, entre 1,5 million et 2 millions de personnes en France ont visionné illégalement des matchs et des compétitions. En septembre dernier, avec l'arrivée de la Ligue des champions de foot sur RMC Sport, ce chiffre est passé à plus de 2 300 000 personnes. C'est plus 50% en un an. Et potentiellement, tous ces « pirates », entre guillemets, ce sont autant de personnes qui ne s'abonnent pas pour les chaînes. Alors, c'est la double peine pour ces diffuseurs qui paient d'un côté le sport à prix d'or, mais ne voient pas leurs abonnements augmenter d'un autre côté. Alors, les réseaux sont souvent très organisés. Exemple, pour un seul match de Ligue 1, on peut trouver plus de 250 liens vers des sites pirates.
Ah bon? Donnez-les.
Non. Certainement pas.
Je plaisante. Eva, mais... Elle a vraiment cru que j'incitais les gens.
Et selon les estimations de l'Association pour la protection des programmes sportifs, le manque à gagner serait de 500 millions d'euros par an pour les chaînes. Alors, bien sûr, ces chiffres-là vertigineux ont poussé pousser les chaînes à réagir, le groupe Altis, qui détient donc SFR et le bouquet RMC Sport, qui diffuse notamment la Ligue des Champions, la Ligue Europa, ça je ne savais pas, s'est doté d'une cellule d'investigation pour lutter contre le piratage. Le groupe vient d'annoncer le démantèlement d'un site illégal. Alors si le phénomène est à ce point en pleine expansion, c'est aussi, il faut bien le dire, à cause de la grande diversité du marché, pour pas dire l'éclatement, Canal+, beIN Sport, RMC Sport, il n'y a je plus combien de diffuseurs. Si vous voulez avoir accès à plusieurs sports ou à tous les sports que vous aimez, il faut vous abonner à tout ou presque. Alors si j'additionne les trois que je viens de donner, là, Canal, beIN, RMC Sport, ça fait 70 euros par mois d'abonnement mensuel, c'est quand même une somme. Beaucoup. Et l'année prochaine, il y a le petit nouveau Media Pro qui arrive pour la Ligue 1, histoire de simplifier tout ça, exactement. Ça a l'air dans le Figaro.
Merci beaucoup Jérôme, merci à tous les amis. Le pressing referme ses portes. Céline, alors, votre avis sur le slip croissant de Jérôme ?
Délicieux.
Ah oui, oui, ça a l'air, oui.
Europe 1.
Il est 5h28, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue avec la météo et le journal d'Hélène Zélani. Subjugant réveil à l'écoute d'Europe.
Il est 5h29, Mathieu Noël.
Céline Dacosta, faisons un point sur la météo de ce 5 février. Encore de la grisaille.
Mais oui, ça sur les trois quarts du pays, avec de faibles averses de la Bretagne à la Gironde. Elles sont un petit peu plus régulières sur les Pyrénées, avec de la neige encore au-dessus de 1800 mètres pour ce matin. Des brouillards sont présents aussi sur l'ouest, particulièrement sur les côtes bretonnes et vendéennes en ce moment. Et puis à l'est, le soleil va encore briller aujourd'hui, de l'Alsace à la Bourgogne, Rhône-Alpes, région PACA. Soleil aussi pour la Corse. Nuages en revanche sur les Alpes pour ce matin. Les températures remontent déjà un petit peu, moins 3 degrés à Nancy, moins 2 à Mulhouse, moins 1 à Lyon, mais déjà 2 à Tours, 4 à Cognac, Toulouse et Paris, 6 degrés à Perpignan, 9 à Biarritz et 12 à Bordeaux.
Et cet après-midi, Céline ?
Sensiblement la même carte, avec encore des averses sur la Bretagne et le sud-ouest, un petit peu plus de soleil sur l'est, il revient aussi sur les Pyrénées, partout ailleurs, ça va rester bien gris. Quant aux températures, elles iront de 6 à 13 degrés sur la moitié nord, avec 8 degrés à Paris, 11 à 14 pour la moitié sud, il en fera 12 à Auch et 14 à Ajaccio.
Merci Céline.
5h, 7h. Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui fait rimer information et allégresse. Ce qui vous en conviendrait n'est pas facile vu qu'il n'y a aucune syllabe en commun. Et pourtant, même le point santé du docteur Ichou tente de vous donner le sourire. Marseille ayant le don de présenter les maladies les plus terribles avec le même entrain qu'un vendeur de voitures de luxe.
Et puis alors, le top du top, c'est l'hépatite C.
Ce matin, une bonne nouvelle pour les gros dormeurs, vous n'êtes pas des feignasses. Si ça se trouve, en fait, le besoin de sommeil, c'est simplement génétique.
Bienvenue sur Europe 1, il est 5h30. 5h-7h, Mathieu Noël.
Les infos de ce 5 février 2019. Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Hélène.
Ce violent incendie qui s'est déclaré dans la nuit dans un immeuble du 16e arrondissement de Paris et le bilan est toujours provisoire. 7 morts, 28 blessés. Emmanuel Macron au chevet des banlieues dans le cadre du grand débat. À Évry-Courcouronnes, le président a longuement joué le jeu des questions-réponses face à des élus et des représentants d'associations. Et puis la loi anti-gaspillage n'est pas respectée partout. Certains supermarchés jettent les produits alimentaires au lieu de les offrir. Une plainte sera déposé aujourd'hui contre un Leclerc des Landes.
Europe 1.
Et donc d'abord ce dramatique incendie qui a éclaté dans la nuit dans un immeuble de 8 étages du 16e arrondissement de Paris. Bilan déjà très lourd, au moins 7 morts, 28 blessés dont un en urgence absolue. 200 pompiers luttent toujours contre les flammes. Plusieurs immeubles du quartier ont été évacués. Écoutez les précisions du porte-parole des pompiers Clément Cognon.
On constate une scène d'une incroyable violence avec un immeuble qui est entièrement embrasé, notamment la partie haute en particulier. Beaucoup de gens qui se manifestent aux fenêtres et d'emblée les secours font l'effort sur les sauvetages. Ils établissent des échelles en façade pour aller secourir les gens au plus près. Ils prolongent les échelles avec ce qu'on appelle des échelles accrochées. Ce sont des échelles que l'on suspend au balcon. Et ces échelles permettent d'accéder de niveau en niveau pour aller chercher les gens. Une trentaine de personnes seront évacuées ainsi. Reste que nous sommes encore dans une phase active. L'incendie n'est toujours pas éteint. Notamment au 8e et dernier étage, le feu est encore assez virulent. Donc les reconnaissances ne sont pas finies et le bilan peut encore évoluer.
Voilà, l'incendie n'est toujours pas éteint. Bilan, je vous le rappelle, de 7 morts, 28 blessés. C'est le porte-parole des pompiers interrogé par Aude Vernuccio. Et pour l'instant, aucune précision sur les causes du sinistre.
6 heures face à 300 maires et dirigeants d'associations franciliens.
Oui, Emmanuel Macron s'est à nouveau livré à un débat marathon hier à Évry-Courcouronnes dans l'Essonne, le 5e depuis le 15 janvier. Parmi les nombreux sujets abordés, suppression des contrats aidés, fusion forcée de communes ou encore pénurie de logements en banlieue, Jean-Rémy Baudeau.
Oui, car pour de nombreux maires de banlieue présents hier soir, ce grand débat ne doit pas être le remake du rapport Borloo, enterré en mai dernier. Et c'est avec beaucoup de prudence qu'ils ont participé à ce long exercice, plus de 6 heures de dialogue avec le président. Un débat plutôt technique, voire franchement techno, mais les élus ont pu y exposer leurs problèmes quotidiens. Il a peu été question de pouvoir d'achat ou des revendications des Gilets jaunes, mais derrière les thématiques du logement, des dotations ou de la santé locale, les maires de banlieue ont posé le cadre des souffrances de leurs administrés. Emmanuel Macron aura réussi à rassurer certains, il a été à l'écoute, expliquait le maire d'Évry-Courcouronnes, quand d'autres attendent toujours de voir. La France a déjà perdu trop de temps, confiait le maire communiste de Grigny.
Jean-Rémy Baudot à Évry-Courcouronnes pour Europe 1. Et lors de ce débat, Emmanuel Macron a reconnu que la suppression des emplois aidés avait posé un vrai problème pour les petites associations. Il compte lancer un grand plan pour les aider.
Le grand débat, mais sur le bitume. La CGT, qui boycotte cette consultation, lance une journée de mobilisation.
Oui, c'est la première de l'année. Le syndicat tente de reprendre la main de la contestation sociale, domaine complètement occupé par les Gilets jaunes ces derniers mois. Appel à la grève et aux manifestations. Grève notamment à la RATP, mais la direction prévoit un trafic normal. À la SNCF, des retards en vue sur les Thalys. Le mouvement pourrait également toucher l'éducation. Des manifestations sont programmées un peu partout en France. À Paris, ce sera entre l'Hôtel de Ville et la Concorde. Dès cette nuit, 2 à 300 manifestations. Manifestants de la CGT avec des gilets jaunes ont commencé à bloquer l'une des entrées du marché de Rungis.
Europe 1 est 5h34.
Arro sur le gaspillage alimentaire. Un magasin Leclerc poursuivi en justice.
Oui, celui de Mimizan dans les Landes. Deux avocats ont fait constater par huissier que des dizaines de kilos de nourriture étaient jetés à la poubelle et aspergés de désinfectants. Non seulement c'est interdit par la loi, mais les grandes surfaces doivent donner les invendus encore consommables à des associations. Maître Arache de Rambarche, avocat au barreau de Paris et élu LR, est à l'origine de la loi anti-gaspillage. Il compte déposer une première plainte dès aujourd'hui contre Leclerc.
Cette loi doit être appliquée par tout le monde. Au bout de 3 ans, nous avons des centaines de lanceurs d'alerte qui nous informent que de nombreux supermarchés partout en France ne respectent pas cette loi. Dans une période où 10 à 15 millions de Français n'ont plus d'argent sur leur compte en banque après le 10 de chaque mois, il n'est pas pensable que des supermarchés n'appliquent pas la loi contre le gaspillage alimentaire. C'est pour cela que nous avons voulu marquer l'exemple. Tant qu'un seul supermarché dans la République française continuera à jeter des invendus alimentaires consommables, nous continuerons à porter plainte systématiquement. Je rappelle que l'infraction est passible d'une amende de 3 750 euros. Je me retourne auprès de la société civile. Aidez-nous à tous ceux qui verront systématiquement une dérive ou une atteinte grave à la loi contre le gaspillage alimentaire. Vous me le faites savoir, vous me l'envoyez sur mon mail et nous porterons plainte systématiquement.
Maître Desrambarches, interrogé par Pierre Herbulot pour Europe 1 et selon la direction du groupe Leclerc, c'est un dysfonctionnement exceptionnel. À Washington, l'événement du jour, c'est le discours de Donald Trump sur l'état de l'Union devant le Congrès, traditionnel rendez-vous qui permet au président d'exposer sa vision de l'avenir. Les 535 membres du Congrès peuvent choisir des invités pour les accompagner. Donald Trump, lui, a notamment invité un certain Joshua Trump. Ce garçon qui est élève de 6e n'est pas de sa famille, mais il est au centre de toutes les moqueries à l'école, évidemment à cause de son nom.
C'était le journal d'Hélène Zélani, une professionnelle qui le sait. Il ne faut jamais manger des amandes avant de se rendre à l'antenne. Seulement voilà, vendredi, elle avait trop faim.
Pour retrouver un logement à leur sortie de détention, parallèlement à un parcours d'insertion, ça s'est étranglé dans ma gorge.
Dieu soit loué, on a évité la fausse route, mais tout de même, s'étrangler dans sa gorge, ce n'est pas rien. Tout de suite, voici celui qui n'est pas en train de mâcher un chamallow, mais qui essaie juste de prendre l'accent américain pour épater ses dames.
Le Super Bowl, Tom Brady avec les Patriots face aux Rams.
Allez, Jérôme Lacroix, on passe au journal de sport.
Allez, ridicule, on est d'accord.
Un retour au premier plan.
Oui, ce retour au premier plan, je traduis en français, hein. C'est celui des footballeurs de Bastia, le club qui a longtemps évolué au plus haut niveau, mais depuis un an et demi et un dépôt de bilan, l'équipe se trouve dans les méandres nationales 3, 5e division cette saison. Sébastien, porte-drapeau du plus petit niveau encore représenté en Coupe de France, dont les 8e de finale démarrent ce soir, avec donc Bastia qui reçoit dans son stade Furiani. Quand les joueurs de Ligue 1, l'occasion d'un bon coup de projecteur sur le club corse, se réjouit Gary Koulibaly, 32 ans, né à Bastia.
C'est que du bonheur. Hein. Et aujourd'hui qu'on parle de nous, voilà, en bien, hein, c'est quelque chose de très positif. Ça va être une belle fête. En tout cas, on est fiers de faire ce qu'on fait. Toute équipe est prenable à Furiani. Le stade va être bouillant. Donc on ressent un engouement exceptionnel. Et surtout, voilà, on voit les gens heureux. Donc à nous de répondre présent pour une belle fête et de montrer qu'on a les moyens sur un match de rivaliser avec une belle équipe de camp.
Des propos recueillis par Frédéric Michel, Gary Koulibaly, ancien professionnel. Hein, c'est le cas de beaucoup d'autres joueurs du club Bastia-Caen ce soir, 21h à 18h30. Coup d'envoi par ailleurs de Nantes-Toulouse, Metz-Orléans et des nordistes de Croix, 4e division face aux Dijonais. On jouera aussi en Ligue 1 ce soir, 18e journée, match en retard. Et les Marseillais, dans la difficulté, 10e du classement, reçoivent à 19h Bordeaux dans un stade Vélodrome sans spectateurs dans les tribunes, huis clos. Sanction de la commission de discipline de la Ligue après les incidents il y a 10 jours face à Lille.
On termine, Jérôme, avec la personnalité du jour. Une personnalité du jour sur des skis.
Top départ aujourd'hui des mondiaux de ski alpin à Auray en Suède. Première course de la quinzaine, le Super G dames avec la française Tessa Worley en lice. Je l'ai choisi ce matin, même si les favorites s'appellent plutôt Lara Goute, Michaela Schifrin ou Lindsay Vonn. On attend plutôt Worley sur le géant jeudi de la semaine prochaine. L'équipe de France se présente en tout cas dans le sillage de bons résultats récents. Plusieurs podiums et top 10 en Coupe du Monde, même des victoires, notamment de la nouvelle star Clément Noël, qu'on adore ici.
Ça.
Toutefois, le directeur technique national Fabien Saguez préfère ne pas fixer d'objectifs comptables.
Surtout, on va essayer de s'attacher à faire déjà bien le travail en première semaine, parce que l'entame d'un grand événement, c'est très important. Si on peut faire une ou deux médailles dès la première semaine, eh ben on sait qu'on sera dans une situation bien favorable.
Des propos recueillis par Cyril de la Morinerie. Coup d'envoi du Super G dames aujourd'hui, midi et demi.
On suivra ça. Merci. C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Un dernier mot, Jérôme.
Touchdown.
Oh, c'est bon, je m'en lasse pas. Eva, son jeu vidéo favori.
Bah, Jérôme Lacroix, il joue à Resident Evil.
Resident Evil. Tant à tous.
Il est 5h39, Mathieu.
Oui, vous voulez dire une vacherie, là, je sens.
Je porterai plainte, c'est tout.
Porterai plainte.
Oui, bien sûr. Oui.
Et sur quelle base?
Harcèlement.
Ça se plaide. Oui. Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos journalistiques comiques au service de votre culture générale et de vos zygomatiques. À suivre, mardi, les bons tuyaux, les conseils toujours judicieux de nos experts culture et nouvelles technologies. Aujourd'hui, on parlera notamment littérature et c'est la grande question de mon neveu Kylian Noël. On vous dira si oui ou non on pourra acheter des jeux vidéo avec le Pass Culture. Juste avant, vous retrouvez notre point santé. Le docteur Ichoux se demandera si le fait d'avoir besoin de peu ou de beaucoup de sommeil ne serait pas finalement génétique. Le docteur Ichoux qui tentera de prononcer un mot encore plus compliqué qu'hier. C'est pas facile, mais Marcel est un homme de défi. Qu'est-ce que vous nous avez prescrit hier qu'on n'a rien compris, Marcel ?
De l'oxomémazamine. C'est-à-dire vraiment quelque chose de très difficile à dire.
Sacré Marcel.
Il est 5h40, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, l'heure de jeter un coup d'œil au temps.
Et vous profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, Véranda et abri de piscine.
Toujours clément, faut le dire vite. Céline, c'est la grisaille qui domine encore aujourd'hui.
Oui, c'est vrai, hein, sur toute la partie ouest en tout cas, la pointe nord et le centre du pays. Encore un petit peu de pluie de la Bretagne à l'Aquitaine. Des brouillards peuvent accompagner cette grisaille ce matin, prudence sur les routes. Et le soleil en revanche sera bien présent du Grand Est à la Méditerranée après dissipation de nuages bas sur les Alpes ce matin. Les températures sont en hausse avec cet après-midi 6 degrés à Lille, 8 à Paris, 10 degrés à Cherbourg, 12 à Tarbes, jusqu'à 14 degrés à Toulon.
Merci Céline. Eva Rock.
C'est la journée mondiale de cette fameuse pâte à tartiner dont vous allez prononcer le nom tout de suite.
Le Nutella.
Voilà. Et vous, quel est...
Oui, voilà. La chocolat.
Voilà, exactement. Mais vous, quel est votre petit kiff alimentaire qu'il faudrait pas, qui est pas très avouable en fin de compte? Eh bien, Jérémy nous dit les profiteroles, parfois 1 kilo en moins de 24 heures.
1 kilo de profiteroles, ça fait beaucoup parce que c'est très léger, il ne faut pas que ça le fasse.
Mais ça fait beaucoup. Et Lionel nous dit la pâte à tartiner au spéculoos et les crêpes au caramel beurre salé.
Ça aussi, ça fait longtemps, voilà. La pâte à tartiner au spéculoos.
J'ai faim. Vous continuez sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci
beaucoup.
Europe 1,
5h, 7h, Mathieu Noël.
L'heure de retrouver le docteur Marcel Ichoux pour notre point santé. Bonjour Marcel.
Bonjour Mathieu.
Selon une étude parue dans le magazine Nature, le fait d'être un gros ou un petit dormeur serait lié à notre patrimoine génétique. Mais alors, quand je n'arrive pas à me lever le matin, c'est pas de ma faute, c'est celle de mon ADN en fait.
Oh,
mais oui, c'est ça.
Il trouve des excuses. Mais cela dit, la génétique régule en grande partie notre horloge biologique, qui est le chef d'orchestre des fonctions essentielles de notre organisme. Le sommeil, le système immunitaire, la faim, la température. Et de nombreuses études ont montré que le dérèglement de cette hormone peut causer ou être un des facteurs qui causent maladies cardiovasculaires, diabète, Alzheimer, cancer, toutes ces choses dont on parle très souvent.
Mais si c'est génétique, les choses sont jouées, on ne peut rien faire.
Et non, il n'y a aucune fatalité, car à côté de la génétique, il y a ce qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique, c'est l'ensemble de l'environnement et de nos comportements qui vont modifier l'expression de nos gènes. Et prenons un exemple simple à comprendre, le diabète. Le diabète a une caractéristique génétique, mais si vous avez une alimentation convenable, sans trop de sucre, sans trop de graisse, et avec un exercice physique, vous allez échapper au diabète. En revanche, celui qui n'a pas le gène, mais qui s'empiffre de gâteaux, au chocolat, etc., risque, lui, un diabète. Donc vous voyez, il n'y a aucune fatalité, nos gènes ne sont pas tout.
Merci Marcel, on se retrouve demain pour un nouveau Point Santé, 5h40.
Europe 1, il est 5h43, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui vous informe d'une main et vous chatouille de l'autre, mais toujours au service de votre culture. Et justement, côté culture, nos experts en connaissent un rayon.
Alors maintenant, si tu cherches à me vexer avec ta culture, reste en merde.
Grand Dieu, non Gérard. Je cherche pas à me vexer, juste à partager les trouvailles culturelles de nos experts et progresser ensemble sur le chemin de la connaissance. Bref, ce sera mardi les bons tuyaux, une séquence passionnante où on vous expliquera le fonctionnement du Pass Culture, l'expérimentation des débute pour 10 000 jeunes dans 5 départements.
Super.
Pour les jeunes, oublions ce triste détail avec un peu de musique. If You Feel, Cats on Trees sur Europe 1.
You're not coming home, I have to meet with you. You're not coming home, I dig my time with you. Visions on the TV crush my mind. The crash acts like a dog, I'm losing time. You're my sister, the tattoo on my skin. As you lead me underneath the stars. You're my sister, the tattoo on my skin. You build a neon castle with your eyes. If you feel my to say, lovers all around you crush my mind. My heart beats like a drum, drum close to you. You're my sister, the tattoo on my skin. You build a neon castle with your eyes. If you feel my heart, then I can dive alone.
If you feel, Cats on Trees sur Europe 1.
Europe 1, il est 5h46, Mathieu Noël.
À suivre, exactement. Oui. Exactement. 500
quoi,
euros pour les jeunes de 18 ans à dépenser pour se procurer des biens culturels. Le Pass Culture arrive enfin. Mais en fait, ça comprend quoi exactement les biens culturels? Est-ce que ça inclut par exemple les jeux vidéo?
Fantastique!
Calme-toi Kylian, ça c'est mon neveu. Ah, il est très excité par ce Pass Culture. On verra si ça marche pour les jeux vidéo. Toutes les infos sur le Pass Culture dans un instant. Dans Mardi, les bons tuyaux.
Il est 5h47, l'essentiel de l'actualité avec vous Mathieu Noël.
Incendie meurtrier en cours dans le 16e arrondissement de Paris, bilan très lourd, 7 morts, 28 blessés. Le feu s'est déclenché au beau milieu de la nuit dans un immeuble de 8 étages entièrement évacué. L'origine reste indéterminée, 200 pompiers sont sur place. 6 heures de questions-réponses avec 300 personnes, maires, représentants d'associations. C'était la 5e rencontre pour Emmanuel Macron, qui pour la première fois emmenait le grand débat national en banlieue, à Évry-Courcouronnes, dans l'Essonne. Principale annonce, un plan pour les petites associations, des aides pour les structures qui feraient travailler des résidents dans des quartiers défavorisés. Enfin, la loi anti-casseurs doit être adoptée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Plusieurs points de ce texte divisent les rangs de la majorité, comme par exemple le pouvoir donné au préfet d'interdire les manifestations. Une trentaine de députés de la majorité ne devraient pas voter ce texte.
Europe 1.
Voici pour l'essentiel de l'actu de ce mardi 5 février. Et pour ouvrir la page des pronostics hippiques, qui de mieux que Pierre Desproges, qui, vu son mauvais esprit, n'a pas dû avoir souvent le tiercé dans l'ordre, le vilain.
Pour quelle raison des animaux que Dieu a créés pour qu'ils broutent et baissent à l'aise dans les hautes herbes se prendraient-ils soudain d'affection pour des petits nerveux exaltés qui leur grimpent dessus, les cravachent et leur filent des coups de pied dans le bide, dans le seul but d'arriver les premiers au bout d'un chemin sans pâquerette pour que les chômeurs puissent claquer leurs acédiques le dimanche?
Bonjour quand même, José Coves.
C'est magnifique, c'est magnifique. Cagnes-sur-Mer, l'hippodrome du Soleil, 18 trotteurs au départ de la première course, mais 5 priorités. D'abord le 17 Viking d'Hermès, il est associé à David Becker, le roi de la piste, c'est un duo gagnant. Le 18 Blooma des Ripré, la plus riche du peloton, est drivé par un super Eric Raffin. Le 5 Cache des Caillons peut réussir son échappée en tête de la course. Le 3 Buzz de Carême n'a pratiquement jamais déçu sur ses 2925 mètres. Quant au 7 Artiste d'Ulysse, c'est la bonne surprise pour pimenter le rapport du Quintet Plus. Trois autres possibilités. Le 10, Colonel Bond, difficile de le dégrader vu ses états de service. Le 15, Caliloulou, met toujours son cœur sur cette piste. Et enfin, le 2, Bentley de Racon, un très bon cinquième. Voici donc mon ticket pour cette première course vers 13h47. D'abord, le 17, le 18, le 5, le 3 et le 7. Et l'on ajoute le 10, le 15 et le 2.
José, vous n'arrêtez pas de nous dire qu'Eric Raffin, le driver de Blooma des Ripré, le 18 est super. On veut en savoir plus.
C'est un véritable accélérateur. Il impulse son énergie à chaque trotteur qu'il mène. Il se sort toujours des embouteillages du peloton. C'est la valeur ajoutée, Mathieu. Avec Eric Raffin, Blooma des Ripré va faire le plaire de fin.
Oh, très joli, José. Vous aussi, décidément. Quel talent.
Il est 5h49.
Europe 1. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez le 5-7 d'Europe 1. Debout les copains continue avec notre page culture et nouvelles technologies. Voici mardi les bons tuyaux. Eva Rock pour les écrans, Nicolas Carreau pour la littérature et tiens, bah...
Qu'est-ce qu'il fout Martinez ?
Ah oui ? Ah non, il est là Eva, avec sa petite taille, on l'avait pas vu. Grégoire Martinez, notre spécialiste high-tech et jeux vidéo, l'un des rares autour de cette table qui va bénéficier du pass culture. Ça y est, hein, l'expérimentation est lancée. Grégoire, vous nous direz hein, si oui ou non on va pouvoir acheter des jeux vidéo avec ce pass. Mais d'abord, priorité à un des piliers de cette station. Un garçon dont on sait finalement assez peu. Qui se cache derrière la coqueluche de Télérama ? Le dandy de Saint-Germain-des-Prés. Le bougre se livre rarement, plus rarement encore devant un micro, mais c'est certainement parce qu'il le pensait éteint. Oui, le monsieur livre d'Europe 1, Nicolas Carreau, nous a dévoilé l'autre jour que journaliste littéraire n'était pas son ambition première. À la poésie champêtre du Grand Maulne, il préférait de loin les embruns du Grand Large.
Et juste avant, je voulais être amiral, mais ça c'est loupé. Amiral dans la marine. Puis après, je me suis dit que c'était la guerre, donc j'ai dit capitaine de marine marchande. Bon, je vais pas vous raconter ma vie. Puis finalement, journaliste.
Oh, amiral Carreau.
C'est vrai.
On commence.
C'est Philippe Vandel qui m'a posé la question à l'antenne et j'ai répondu.
Bravo Nicolas. Ah oui, mais je vous aurais bien vu avec un, avec
avec une
casquette de marin.
Ouais, enfin, pourquoi pas.
Mais oui, non, vous auriez fière allure. Fière allure.
Nicolas. Vous savez que parfois elle était sur l'Atlantique sur le bateau.
Parce que vous possédez un bateau.
Un petit bateau, oui.
Ah voilà qui est intéressant. Dériveur. Monsieur fait du yachting. Ah bah voilà qui va nous rapprocher des auditeurs.
Je mets une casquette de capitaine.
Très bien. Ah oui. J'imagine. Ah bah vous m'envoyez des photos. Avec vous m'envoyez des photos. Nicolas, on parle littérature. La région Nouvelle-Aquitaine finance la restauration d'une propriété de François Mauriac. Vous en profitez pour nous faire un tour des maisons d'écrivains.
Mais oui, c'est toujours impressionnant. Ces endroits, souvent, on retrouve l'esprit des romans qu'on a lus, l'atmosphère de l'écrivain. Alors effectivement, la région Nouvelle-Aquitaine consacre 2 800 000 euros quand même à la restauration du domaine de François Mauriac, Malagar, entre Marmande et Bordeaux. C'est magnifique et gigantesque, on dirait un domaine toscan avec ses cyprès et ses pins parasols. Mauriac disait « Je n'y habite que durant 3 mois de l'année, mais c'est le temps où je me ressemble le plus. »
Alors Mauriac en Nouvelle-Aquitaine, mais beaucoup de maisons d'écrivains sont conservées en France, Nicolas.
Plein, la maison de Victor Hugo, Place des Vosges à Paris, c'est un musée en fait, c'est très beau. Alexandre Dumas aussi, il faut visiter le château de Monte-Cristo du côté de Port-Marly. On dit château, en fait c'est une grande maison au milieu d'un parc, mais elle est incroyable cette maison. On peut y voir des tableaux, des documents d'époque, un salon oriental. Il y a aussi une petite dépendance dans le parc, c'est là où Dumas écrivait quand il habitait Monte-Cristo. Et sur la façade sont incrustés les noms des personnages de Dumas, D'Artagnan, Porthos, Joseph Balsamo, etc.
Oh, on peut aussi visiter les appartements de Prévert et Boris Vian.
À côté du Moulin Rouge, la cité Véron, c'est là que Boris Vian habitait dans un appartement au 3e étage. Alors on peut pas visiter comme ça juste en passant, c'est un peu plus compliqué.
On donne votre nom, mot de passe.
Éventuellement, mais j'ai eu la chance de le voir, c'est fascinant, tout est resté en l'état, comme si Boris Vian était juste parti faire une course. On peut accéder à la terrasse aussi qu'il partageait avec Jacques Prévert, son voisin. Il y en a des dizaines, on tient au souvenir de nos écrivains en France. Vous pouvez visiter le site littérature-lieu.com, il y a une carte interactive et il y en a plein partout.
Génial. Merci beaucoup, Nicolas Caro. Et à vos côtés, vous connaissez certainement le jeune et imberbe Grégoire Martinez.
Les commerçants l'appellent mademoiselle.
Ben, c'est lui. Grégoire, le pass culture arrive. Les tests du pass voulu par le gouvernement ont débuté et les adolescents vont pouvoir acheter des jeux vidéo avec.
Oui, exactement. Et ça a déclenché un tollé sur les réseaux sociaux. Ce pass qui doit permettre à tous les jeunes de disposer d'un même capital pour découvrir la culture leur permettrait finalement de jouer à des jeux de guerre type Call of Duty. Alors évidemment, un jeu de guerre, c'est vrai que ça n'a pas grand chose à voir avec la culture quand on pense d'abord musée et spectacle vivant. Sauf que, eh bien oui, le jeu vidéo, ça peut aussi être de la culture et ce n'est pas forcément pour faire la guerre ou jouer avec des armes. D'ailleurs, figurez-vous que le bien culturel le plus vendu en France, c'est un jeu vidéo, c'est FIFA 19, le jeu de football. Et même si FIFA n'est pas le meilleur exemple, hein, avec certains jeux, on peut apprendre des choses. Certains professeurs utilisent même des jeux vidéo pour travailler avec leurs élèves. Résultat, oui, sur les 500 euros de capital du Pass Culture, les jeunes pourront acheter jusqu'à 200 euros de jeux vidéo. En tout cas, c'est ce qui est prévu pour le moment dans les 5 départements où le Pass Culture est testé en ce moment, c'est-à-dire le Bas-Rhin, l'Hérault, le Finistère, la Guyane et la Seine-Saint-Denis.
Mais on peut acheter n'importe quel jeu vidéo, y compris un jeu de guerre donc.
Alors non, rassurez-vous, hein, tout ça va être soumis à un contrôle. D'abord parce que pour que le jeu soit éligible au Pass Culture, il faut que son éditeur, c'est-à-dire la société qui a créé le jeu, ait demandé à intégrer l'offre du Pass Culture. Ce n'est pas automatique. S'il ne le fait pas, ça ne marchera pas. Et puis ensuite, quand l'éditeur fait sa demande, l'État contrôle le jeu pour, je cite, « s'assurer de leur conformité avec les objectifs de service public ». Et puis enfin, il faut que le jeu ait été créé en France ou en Europe. C'est pour favoriser la culture locale. Bref, avec tout ça, on peut découvrir ou redécouvrir de petites pépites et notamment une qui avait été développée par le géant français du jeu vidéo Ubisoft, c'est l'un des leaders du secteur, c'était dans son studio de Montpellier. Ce jeu, il s'appelle Soldat Inconnu, Mémoire de la Grande Guerre et il se joue sur console ou sur PC et il permet de découvrir de manière ludique une partie de l'histoire de la Première Guerre mondiale. En revanche, le problème c'est qu'avec toutes ces contraintes imposées par le ministère de la Culture, assez peu de studios de jeux vidéo ont pour le moment accepté de franchir le cap et d'entrer dans l'offre.
Merci beaucoup Grégoire Martinez pour cet éclairage sur le Pass Culture. Eva Rock.
Et je vais vous parler d'un film de 12 minutes qui exige beaucoup de souffle. Il s'appelle One Brush Around the World.
One
plongeon.
Quoi?
One Brush Around
One
the
brush?
World. Non, Brush.
Brush, alors attendez, alors, je vais regarder votre texte pour essayer de comprendre ce que vous dites.
Ah là là. Un plongeon dans l'univers sous-marin
One
de la.
Breath?
Oui,
ah,
okay.
Breath,
bien.
Okay. Okay.
Je l'ai bien dit, je suis désolée. Un plongeon dans l'univers sous-marin de l'apnéiste Guillaume Néry, deux fois champion du monde d'apnée, filmé par sa compagne Julie Gauthier, apnéiste également. Ensemble, ils proposent ces courts-métrages réalisés en apnée dans des décors surréalistes. Et les images postées sur les réseaux il y a quelques jours en sont encore la preuve. Ce film, vous allez le voir, c'est une balade de Guillaume Néry dans des lieux surprenants à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Falaise vertigineuse, une forêt sous-marine, une mer de glace. Le nageur court sur les fonds, il grimpe aux branches, il danse avec des cachalots. C'est un ballet splendide à travers le monde pour un film totalement onirique. Vous entendez même les cachalots. 8 mois de tournage ont été nécessaires pour réaliser cette œuvre qui semble être un long plan séquence qui débutait s'achève au même endroit, une plage de Nice. Je vous recommande par ailleurs une autre vidéo, toujours signée Julie Gauthier, donc la compagne de Guillaume Néry. Mais c'est elle qui danse au fond d'une piscine. Moi, je ne crois pas avoir vu des images aussi magiques. C'est la grâce incarnée dans ce film qui est baptisé Ama, A-M-A, en hommage à ces femmes japonaises qui sont pêcheuses de perles et qui plongent en apnée pendant des jours. Ce sont donc deux films à voir et il suffit de taper sur internet ou de taper simplement Guillaume Néry et vous allez tomber dessus.
Ça
et
marche.
Voilà, ou Julie Gauthier, et vous avez les deux films.
Merci beaucoup, Eva Rock. Merci à toute l'équipe des Bons Tuyaux qui se reformera demain. Céline, une petite info en plus, pas forcément utile.
Il y a du chauffage dans les tracteurs.
Merci.
Il est 5h57, Mathieu Noël.
À suivre dans Debout les copains, votre météo avec Céline Dacosta et le journal de 6h de Céline Kalman.
Europe 1.
Il est 5h58, Mathieu Noël.
L'heure d'un point sur la météo avec vous, ma chère Céline Dacosta. Encore de faibles averses de la Bretagne à la Gironde.
Oui, elles sont un petit peu plus régulières sur les Pyrénées avec de la neige encore au-dessus de 1800 mètres, le tout sous un ciel bien gris. Des brouillards présents aussi sur l'ouest du pays, particulièrement sur les côtes bretonnes et vendéennes. Et puis à l'est, le soleil va encore briller aujourd'hui, de l'Alsace à la Bourgogne, en descendant jusqu'à la région Rhône-Alpes et PACA. Soleil aussi pour la Corse, nuages en revanche pour les Alpes ce matin. Ça va s'arranger cet après-midi puisque le soleil reviendra également sur ce secteur. On n'aura pas beaucoup de changements d'ailleurs, hein, encore des averses sur la Bretagne et le sud-ouest, et puis de la grisaille partout ailleurs.
Merci Céline.
Mathieu Noël, tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.